lu et approuvé.
Ce serait comme un mec qui lirait des livres à la radio et...
On dérange, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès évidemment, l'âge de 7 évidemment. Ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de traîneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé, la bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir éveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non, on n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
L'indicible dans le verre des rizières de Christine Wistup. Tiré de faits historiques réels qui ont eu lieu à la fin de l'empire colonial français d'Indochine, années 50, des faits semblables ont eu lieu dans d'autres colonies, comme en Algérie ou à La Réunion. Ces drames ont donc concerné des milliers d'enfants dans le monde, pourtant, les manuels d'histoire n'en disent jamais rien. Mars 2014.
Non, il n'a pas pris toutes ses affaires. Juste une valise, quelques t-shirts, son jean, sa trousse de toilette. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il va revenir. Ça ne veut rien dire du tout. Il est parti, c'est tout. Il a quitté brusquement le repas de nos fiançailles, il est venu ici, a bouclé son bagage et basta. Oui, peut-être qu'il a pris peur. J'en sais rien, moi. En tout cas, c'est un salaud. Simplement un salaud. Ça se fait pas. Il pouvait m'expliquer. C'est la moindre des choses de s'expliquer, non? Surtout que ses fiançailles, c'est lui qui les a voulues. Toute la mise en scène complètement ringarde du grand repas familial. Alors maintenant... Oui, s'il voulait tout casser, il me devait une explication. J'avais rien demandé, moi. Pas de truc officiel comme ça. On s'aimait, tout simplement. Ça me suffisait. Non, ça veut pas dire qu'il va revenir. Et même s'il revient, c'est moi qui dirai basta. Je vais quand même pas m'engager avec un mec qui me traite comme ça. De quoi j'ai l'air vis-à-vis de ma famille? D'une pauvre conne. C'est tout. Une pauvre conne qui s'est fait larguer par son mec. Une autre fille là-dessous? J'ai pas l'impression, mais tout est possible. Avec ce genre de mec, tout est possible. Oui, c'est vrai, il a toujours été bizarre. Un peu bizarre. Oui, tu me l'avais dit, mais tout le monde me l'avait dit. Ces longs silences, ces blocages, quand il semblait se refermer sur lui-même comme une huître. Voilà. Une huître que j'ai entrouverte. Mais j'ai pas su trouver la perle. La perle, elle a roulé par terre. Elle a roulé, elle s'est échappée. Non, je dis des conneries avec mes histoires de perles. On n'est pas dans la poésie. Juste une fille larguée par son mec. Une histoire banale, banale à en pleurer. Non, il n'a pas laissé de message. J'ai regardé partout. Pas de message, pas de SMS non plus, ni de mail, rien. Silence radio. Silence radio depuis presque 3 jours maintenant. Je veux bien regarder à nouveau mes mails, mais à quoi ça sert? Tu sais, le premier jour, j'ai dû consulter ma boîte mail toutes les 10 minutes. J'y croyais, bêtement. Maintenant, c'est trop tard. Quand on veut s'expliquer, c'est tout de suite. Tu vois, comme d'habitude, des mails de pub, des mails de pub. Rien de nouveau. Attends. Si. ce mail-là. Attends, laisse-moi l'ouvrir. Oui, c'est lui. Quelques mots. Je te dis. Je suis partie, mais je ne t'ai pas quittée. Je vais tout t'expliquer. Laisse-moi quelques jours. Je t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien sûr, je pleure. Je suis émue d'avoir de ces nouvelles. Mais ça ne change rien. C'est toujours un salaud. Tout est gâché entre nous. On ne peut pas refaire le film. Mais attends, le mail. Il l'a envoyé de l'ordinateur d'un hôtel. Il est au Vietnam. Hanoï, c'est bien au Vietnam. Mais qu'est-ce qu'il fout au Vietnam? Hanoï, mars 2014.
Ici, c'est étrange. Ici, c'est très différent de ce que je pouvais imaginer. Le ciel est gris, un peu bas. L'humidité à fleur de peau. Il pleut souvent, mais il me semble que c'est pas de la vraie pluie, juste l'humidité qui s'exprime en gouttes qui mouillent à peine. Une vieille ville, et dans cette vieille ville, un vieux quartier. C'est là que je loge. Dans un petit hôtel, tout en hauteur. Une chambre par étage. Un étroit balcon, sur la rue, grouillante de mobilettes et de vélos. Des immeubles de style colonial, noircis par la poussière ambiante. Des plantes et des cages à oiseaux, des câbles électriques partout, dans tous les sens. Des bruits constants de moteurs, de klaxons, de voix qui crient dans cette langue un peu rude. Des touristes aussi, beaucoup de Français. Que viennent-ils chercher là? Oh, l'Asie, un autre monde. L'espace encore inassouvi de l'Extrême-Orient? Ou une vague nostalgie inavouée, à peine consciente, sous des relents de culpabilité et de tangibles idéaux d'égalité et de fraternité. La vague nostalgie d'une Indochine française? Bon, peu importe, je ne suis pas un touriste. Tu t'en fous totalement de mes premières impressions? Tu veux seulement savoir pourquoi je t'ai planté là comme une conne le jour même de nos fiançailles? Toi qui trouvais ça vide de sens des fiançailles à une époque où on se marie à peine. Totalement démodé. Et pourtant oui, et oui, je le voulais, et oui. Et oui, je suis parti. Oui, j'ai agi comme un salaud. Y a pas d'autre mot, t'as raison. Sans explication. Pourtant, je t'aime, et nous vivrons sans doute notre vie ensemble, si tu le veux encore quand je t'aurai dit mon histoire. Peut-être me pardonneras-tu d'avoir eu ce brusque besoin d'aller là-bas. Il fallait que je parte. Comme un appel, intérieur, je veux dire, implacable, irrésistible. Comme un grand cri d'angoisse. Connaître qui je suis. Connaître pour renaître. Évidemment, il y a eu un élément déclencheur. Un rien, un détail. Qui n'est pas pour grand-chose. Nos fiançailles, un repas de famille, certains qui boivent un peu plus qu'à l'ordinaire. Mon oncle lève son verre et lance le refrain d'une chanson à boire. Ton grand-père enchaîne en entonnant « Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonquinoise ». Connaissez les paroles par cœur et pour cause. Tu me dis en riant « Faut pas faire attention, il a bien descendu le Bordeaux et il a fait dans sa jeunesse la guerre d'Indochine ». J'ai fait mine de sourire. Au troisième refrain, je suis parti, tu m'as plus revu depuis. Tout a commencé il y a 9 mois, à la mort de mon père. Étrange, une mort et le temps d'un enfantement pour aboutir à ce départ. Mon père. Pendant toute mon enfance, j'avais été fasciné par ce père avenant, aimant, qui n'hésitait jamais à montrer son affection, mais qui restait un peu mystérieux parce qu'il ne parlait jamais de lui. Il pouvait me serrer longtemps contre lui sans rien dire, et je sentais qu'il fallait pas chercher à passer de l'autre côté du mur. Tu me reproches souvent mes silences. Je crois que je tiens de lui la confuse certitude qu'il n'est pas d'être sans une part d'ombre. Sa mort m'a rapproché de ma mère. Je n'ai vraiment vu cette femme un peu effacée, comme en retrait de sa propre vie, qu'après la disparition de mon père. Avant, je ne voyais que lui. Elle l'accompagnait, elle le suivait, elle l'approuvait. Mais en fait, elle était là, vraiment là, et elle veillait sur ce couple fusionnel que nous formions avec mon père. Je suis allé la voir assez régulièrement. Je voulais qu'elle m'explique. Je savais pas exactement quoi. Quelque chose qui aurait concerné mon père. et aurait éclairé la part d'ombre, celle de mon père et la mienne. J'ai vite compris qu'il y avait bien un secret, quelque chose qui relevait du secret de famille, et qu'elle ne voulait pas me révéler, par respect pour mon père, pour ne pas rompre un silence qu'elle lui avait promis de garder. Et puis, il y a eu toi. Toi à nouveau, toi toujours, tes sourires, qui ont pansé mes blessures, qui m'ont redonné le goût à la vie. La vie sans lui. Ces 9 mois, nous les avons passés ensemble. Avec aussi tes drôles de réflexions, ta spontanéité presque naïve qui parfois m'embarrassait. Tu me prenais le visage entre tes mains et tu me parlais de mes yeux de chinois qui te faisaient chavirer. Je réagissais vivement, alors tu explosais de rire. Et puis tu ajoutais, et même la forme de ton visage, quelque chose d'asiatique, tu vois, genre Gengis Khan. Alors je retombais pour un temps dans mes silences, comme muré dans une espèce de forteresse invisible, comme blessé par une plaie dont je ne voyais pas le fond. Je retournais voir ma mère. Je lui expliquais que j'étais mal. Je lui racontais, en me sentant ridicule, que mes yeux de chinois te faisaient rire. Mais papa aussi, il avait ses yeux-là, non, c'est de lui que je tiens mon visage. Ma mère me regarda longuement. Je la sentais touchée, en pleine hésitation. Puis elle me raconta cette incroyable histoire. Elle m'expliqua que mon grand-père à moi, celui, je veux dire, que j'ai pas connu, était soldat pour l'armée française en Indochine. Il faisait partie d'un de ces nombreux bataillons envoyés par la métropole pour sauver l'empire colonial français. Je crois qu'il était soldat de métier, mais je ne suis pas sûr. Peut-être il s'était engagé volontairement comme mercenaire pour aller foutre une dégelée aux Viet, qui commençait, surtout au nord du pays, à organiser une guérilla de résistance. Où il est parti sans savoir vers quel massacre il allait, comme ça, juste pour suivre les ordres. Bon, je saurais jamais. Une fois au Tonkin, comme la plupart des autres soldats, il a rencontré une femme de là-bas, une Tonkinoise. Elles avaient la consigne de répondre avec bienveillance aux appels des soldats venus tuer leurs frères. Elles n'avaient pas trop le choix. Elles étaient du mauvais côté de la rivière, celui des colonisés. En face, il y avait les Blancs, les Français, les colonisateurs. Ces derniers avaient pour eux le droit, et un peu tous les droits, y compris celui de s'approprier une de ces sauvageonnes qui devaient en retour se sentir honorées et assouvir aussitôt les manques affectifs et sexuels de ces pauvres soldats. Une ou plusieurs, selon l'appétit de ces messieurs. C'est dans ce type de circonstances que mon grand-père a connu ma grand-mère et que beaucoup de soldats ont eu pendant la guerre d'Indochine leur petite tonkinoise. Tant que c'est devenu une chanson à boire à succès dans tous les régiments du Tonkin. L'histoire aurait pu s'arrêter là et demeurer dans les archives comme une blessure, une situation honteuse, comme on en trouve souvent en temps de guerre. Mais un grand nombre d'enfants sont nés de ces couples de quelques semaines ou de quelques années, mon père entre autres. Élevés par leur mère, indigène parmi les indigènes, ces enfants n'avaient aucun statut juridique. Sauf dans les rares cas où le père le reconnaissait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les années 50, alors que la France sentait le déclin de son empire colonial indochinois, le gouvernement français se mit à vouloir s'occuper du sort de ses enfants qui avaient du sang français. Pour leur bien, c'est au moins ce qu'en dit la version officielle, il fallait assurer à ses enfants une bonne éducation et un bel avenir. Il fallait surtout éviter qu'ils ne mettent en question, en grandissant, le gouvernement colonial, si celui-ci les laissait de côté. C'est donc pour leur bien que ces enfants furent arrachés à leur mère et élevés dans des pensionnats, avec l'accord de celle-ci. Avaient-elles un autre choix, alors qu'elles avaient du mal à survivre elles-mêmes? Et puis, on leur accorda le droit de visite une fois par mois. Elles pouvaient embrasser leur gamin ou leur gamine à travers les grilles de la pension. Jusqu'à ce que les autorités décident d'emmener tous ces petits métis vers la métropole, où ils seraient pris en charge dans des orphelinats, renommés par l'institution, déclarés nés de pères et de mères inconnus. Mon père fut l'un de ces orphelins un peu particuliers, assommé par le silence de ses origines, avec cependant comme le vague souvenir sans doute d'une mère qui surgissait dans sa mémoire, lui lançant des baisers au travers des barreaux d'une grille. Voilà la suite, tu la connais ou tu l'imagines, comme une indicible pesanteur qui a pesé sur lui, puis sur moi, son fils, au même titre que tous ceux sans doute qui se voient interdits l'accès à leur propre histoire et qui continuent à chercher, avec une ferveur quasi désespérée. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner, mais j'espère que tu pourras me comprendre.
Hanoï, une semaine plus tard.
Une semaine que je suis à Hanoï, et j'ai pas avancé. J'ai arpenté tout le quartier du pensionnat où mon père avait été placé. Les placements se seraient faits autour du lieu de résidence de la mère. En admettant que rien n'a bougé, que ma grand-mère n'a pas déménagé, elle devrait se trouver dans les parages. Bon, en fait, rien de moins sûr. Qui ne bouge pas en 50 ans? Mais c'est ma seule piste. Je la suis donc sans me décourager. Je me dis qu'elle n'est peut-être plus là, mais que je trouverai bien dans cet incroyable dédale de rue des gens qui l'ont connue et qui sauront me conduire à elle. Car elle est vivante, n'est-ce pas? Dis-moi qu'elle est vivante. Peut-être a-t-elle besoin de moi, peut-être est-elle seule ou malade ou dans la misère. Peut-être au contraire a-t-elle fondé une autre famille qui serait aussi ma famille. J'arpente donc les rues, sous la pluie, car il pleut toujours. Je me suis acheté un de ces chapeaux pointus en paille ou en bambou, je sais pas trop, qui protège autant de la pluie que du soleil quand il veut bien se montrer. Comme ça, j'ai vraiment une tête asiatique, ça te ferait rire. Et puis, au hasard de mon itinéraire, je l'ai vue. Du bout de la ruelle, je l'ai remarquée. Elle était assise sur une marche d'entrée d'une de ces maisons tout en hauteur. Une ancienne maison coloniale qui avait été repeinte en jaune, puis s'était encrassée des fumées de gasoil. Au-dessus de sa tête, à la hauteur du premier étage de la maison, un gros fatras de fil électrique. À ses pieds, un panier d'osier rempli de légumes. Elle regardait droit devant elle, comme plantée dans le décor de la vieille ville, attendant simplement que le temps passe. Difficile de lui donner un âge, 80, 85, peut-être moins, peut-être plus. J'ai vu dans son visage le visage de mon père, une sorte de copier-coller que je ne pouvais définir au trait par trait, mais qui m'a saisi avec la vigueur d'une certitude. Sa force m'aspirait alors que je m'approchais d'elle. En même temps, j'avais peur de m'adresser à elle et de casser le mirage. Et si elle me rejetait brutalement, m'envoyait balader? Si elle ressentait mon intrusion comme une agression? Je l'ai saluée timidement et lui ai adressé quelques mots en français, en anglais. Elle ne me comprenait pas. J'insistais un peu. Elle se mit à rire en répétant « Madame, madame !» Une jeune femme, tenant apparemment l'échoppe voisine, a voulu nous aider. Elle parlait un peu anglais. J'essayais de lui raconter l'histoire, trop difficile pour elle de me comprendre, empêtrée que j'étais moi-même dans mon anglais très approximatif. Peu à peu, le groupe s'enfla et nous fûmes une dizaine autour de la vieille femme qui finalement observait le manège avec une curiosité bienveillante. Enfin arriva un homme assez âgé, lui aussi, qui parlait bien français. Je recommençais pour lui l'histoire. Il écoutait en hochant la tête, mais ne semblait pas surpris de mes mésaventures. Peut-être en avait-il entendu d'autres du même genre. Il y eut presque 5000 orphelins ramenés en France et coupés de leurs racines. Combien de fils, de filles, de petits-fils, de petites-filles ont-ils tenté, comme moi, le retour aux sources? Il traduisait au fur et à mesure en vietnamien pour la vieille dame et le reste de l'assemblée. De la même manière, aucun ne songea à rire ou à s'exclamer de surprise. Là, dans cette ruelle du vieil Hanoï, la complexité de mon arbre généalogique devenait l'histoire ordinaire d'un petit métis eurasien, comme il y en eut tant. Pour la première fois, en cet instant, je me sentis un enfant d'Hanoï. Il s'ensuivit une longue discussion entre eux et avec la vieille dame, en vietnamien, discussion si vive que le monsieur abandonna vite le projet de me traduire phrase après phrase. Des directions furent montrées, des gens parlèrent assez longuement, évoquant peut-être des histoires semblables. Puis la vieille dame sortit un portefeuille de cuir vert bien usé, dont elle tira quelques photos, qui tournèrent de main en main et des papiers qu'elle déplia et montra au monsieur. Alors mon nouvel ami se tourna vers moi et me dit « Cette femme n'est pas votre grand-mère. Elle s'est mariée très jeune à un Viet qui fut tué dans les combats juste avant l'indépendance. Elle a eu 4 enfants, Deux ont survécu à la guerre. Elle a 5 petits-enfants qui vivent à Saïgon. Elle reste là avec une de ses filles. Elle n'a jamais voulu quitter Hanoï. Je l'ai remercié pour tout, mais son message n'avait fait que me renvoyer à ma solitude et à ma recherche désespérée. Il le vit et me proposa que nous restions en contact, qu'il pourrait m'aider, me servir de traducteur. Quel dévouement de la part de cet homme que je connaissais depuis moins d'une heure et qui était devenu mon ami et un soutien inespéré. Nous échangeâmes nos coordonnées, et je saluai un par un tous les interlocuteurs et serrai chaleureusement et longuement la main de la vieille dame. Je crus lire dans son regard une affection complice. Sur le chemin du retour, je fus surpris par de grosses larmes qui coulaient le long de mes joues. Quand on parle d'intime conviction. Et si elle n'avait pas dit la vérité? Était-il possible pour elle d'évoquer en public une vieille histoire de ce genre? Si son regard de tendresse, au final, c'était ça, la seule vraie réponse. Paris, mars 2014.
Non. Je n'ai pas jusqu'ici répondu à tes messages. Pas même à celui où tu me dis l'histoire de ta famille. Je pouvais pas, tu comprends. Trop perdue. Trop secouée par cette situation qui se voulait idyllique et qui est devenue un cauchemar d'un instant à l'autre. Je t'ai lu. Je ne sais pas si je t'ai pardonné. Je ne sais pas si je te pardonnerai jamais. Ce qui est fait est fait. On ne pourra pas refaire le grand simulacre des fiançailles. Pourtant, tu sais, je m'étais prise au jeu. C'est bien les filles, ça. Le romantisme, c'est jamais non, même si c'est un peu démodé. Bon, mais c'est fini. On part sur autre chose. Ou on repart pas du tout. Je sais pas encore. Pour le moment, tu es loin et tu souffres dans cette ville que tu ne connais pas et qui pourtant, quelque part, est tienne. Dans ta recherche, tu ne sais pas exactement de qui, de quoi. Quelqu'un que tu ne connais pas et qui t'est essentiel. Alors que moi, je deviens juste celle qu'on tient au courant, histoire de ne pas perdre le contact. Pendant ce temps-là, la vie quotidienne, elle continue ici, tu sais. Celle qu'on avait bâtie à deux et que je gère maintenant toute seule, avec toutes ces questions qui restent sans réponse. Le deux pièces avec vue sur le Parmont-Souris, je le garde ou je le largue pour reprendre une chambre d'étudiante à la cité universitaire? Et l'URSSAF, qui t'écrit à propos de ton statut d'auto-entrepreneur, je lui réponds quoi, l'URSSAF? La date limite, c'est demain, et je ne comprends rien à leurs questions. Je te parle même pas de la facture d'électricité, que je peux pas payer, avec le thermostat du radiateur qui est coincé en position maxi, ni des partiels que j'ai lamentablement séchés, parce que je pleurais comme une fontaine, ou de la carte bleue qui depuis longtemps déjà est vomie par les distributeurs. Bien sûr, il y a les parents. Si j'appelle au secours, ils me dépanneront provisoirement, ou en faisant la morale, bien sûr. J'ai pas pu faire autrement que leur raconter ton histoire. Ils ont réagi en parfait bobo. La colonisation est le pire des crimes, une honte pour la démocratie. Ton histoire est révoltante et touchante. C'est tout juste s'ils n'ont pas appelé BHL pour qu'ils en parlent aux actualités. Mais ils pensent tout de même que pour mon équilibre profond, il vaudrait mieux que je trouve un mec sans histoire. Quant à ta mère, la pauvre, elle est totalement HS, à force de culpabiliser pour ce qu'elle t'a dévoilé. Pour elle, je lui dois tous mes malheurs et elle s'inquiète beaucoup pour toi. Tu aurais pu lui donner des nouvelles. Donc, pour finir, je me sens un peu seule. Je ne supporte plus le regard plein de commisération des copines qui n'osent pas me parler de leurs amours. On me traite un peu comme une veuve, voix douce et plaintive, qui s'étend sur les duretés de la vie. Et dès que je tourne les baskets, elles s'éclatent enfin sur leur dernière soirée en boîte. Je ne parle que de moi? Excuse-moi, mais que fais-tu d'autre? Je sais que ta quête est plus passionnante et originale que les petites merdes du jour que je t'énumère ici. Mais c'est ça, ma vie. Depuis ton départ, balayer les grands rêves et les douces nuits. Oui, j'en crève de cette solitude, de cette incertitude. Et je ne veux pas crever en silence.
Paris.
J'ai bien réfléchi. Nos messages qui ne sont pas de vrais échanges. Ta souffrance là-bas, mon désarroi ici, ça n'a pas de sens. Je pars. Mes parents se sont fait un peu prier, mais ils ont payé le billet pour Hanoï. Nous chercherons ensemble ta grand-mère, comme une aiguille dans une botte de foin, et le bonheur dans les ruines de nos rêves détruits. 6 juin, mon numéro de vol et mon heure d'arrivée. À très vite, à l'aéroport.
Hanoï, 4 avril 2014.
Regarde, la pluie s'est arrêtée. Nous pourrions en profiter pour aller jusqu'au lac.
Oui, mais rapidement alors.
Rapidement ?
J'ai un rendez-vous dans une heure avec Monsieur Dohan, je ne voudrais pas le faire attendre.
Nous pourrons aller directement du lac au lieu de rendez-vous. Qu'en penses-tu ?
C'est que, justement, ça m'ennuie un peu de te demander ça. Mais alors que tu viens de faire 10 000 km pour me rejoindre, mais je crois que dans un premier temps, j'irai seul au rendez-vous de Monsieur Dohan. Tu comprends, ma relation avec cet homme est fragile. Il a proposé de m'aider, moi qui le connais à peine, et je voudrais pas lui imposer quelqu'un.
Quelqu'un ? Tu parles de moi comme d'une voyageuse inconnue. Tu ne peux pas tout simplement me présenter à lui comme ta fiancée ?
Si, bien sûr, c'est comme ça que je te présenterai, mais pas maintenant, c'est trop tôt. J'ai l'impression que ça romprait ce lien un peu magique entre lui et moi.
Ah bon ?
Je sais que je te déçois, mais comprends-moi, c'est tellement compliqué.
Je suis venue là pour t'aider dans cette recherche, justement. À deux, tout sera plus simple. Nous serons plus forts, plus tenaces.
Oui, je sais.
Ce n'est pas en restant là à t'attendre que je t'aiderai. Je ne sais pas, moi. Je peux t'accompagner dans tes investigations. Donne-moi des missions. Je sais bien que je ne parle pas le vietnamien, mais je me débrouille. Je me débrouille bien en anglais. Et je sais communiquer avec les mains.
Écoute, je ne peux pas me passer de l'aide de Monsieur Dohan, parce que je ne parle pas vietnamien. Ici, peu de gens parlent français ou anglais. Impossible d'avancer dans une recherche aussi précise sans quelqu'un du cru.
Donc je te suis inutile ?
Non, pas du tout. Tu me soutiens moralement, comme ma mère a soutenu mon père quand ils sont venus ici.
Je ne sais pas si cela me suffit.
J'ai rien à t'offrir de mieux pour le moment.
C'est peu.
Je sais, mais je t'ai pas demandé de venir. Tu peux aller seul vers le lac, c'est facile, on se retrouve là-bas quand j'aurai fini.
Tu sais, je ne suis pas venue là pour faire la touriste. En même temps, j'ai envie de découvrir ce pays qui est aussi le tien et qu'on dit si beau. Mais de toute façon, il s'est remis à pleuvoir. Je vais rester dans la chambre.
Ici, il vaut mieux pas dépendre de la pluie, sinon tu peux attendre longtemps.
Hanoï, 6 avril 2014.
Tu voulais m'aider dans mes recherches ? Tu vas pouvoir le faire. Regarde tous ces papiers. Il nous faut tout lire avec attention.
Pose-les sur le fauteuil. On va prendre les feuilles une par une.
Alors, hop, voilà.
Tu as trouvé ces documents à l'orphelinat ? Tiens, regarde cette photo. Je pense que cet enfant a un peu ton visage.
Fais voir, c'est vrai. Fais voir l'affiche. C'est un prénom vietnamien. Pas encore de nom français. C'est un enfant d'Hanoï. Oui, ça pourrait être ça.
Le nom de la mère ne figure pas. Dommage.
Bon, mets l'affiche de côté. La photo et le prénom vietnamien, je peux les montrer dans la rue. Les gens peuvent le reconnaître et me diriger vers sa mère. Moi, j'ai trouvé dans les listes 3 enfants portant le même prénom que mon père. Alors, 2 sont d'Hanoï et le 3e d'un village sans doute voisin. Pour ce dernier, on a le nom de la mère. On pourra y aller dans ce village, essayer de la chercher.
Ensemble ?
Je sais pas, j'aimerais bien y aller avec toi. En même temps, je vois pas comment on se débrouillerait dans un village sans quelqu'un qui parle vietnamien.
Ça devient ridicule, ton refus de me présenter à ce monsieur. Ou alors, soyons clairs, c'est que tu as honte de moi.
Non, tu sais bien que je suis très fier de toi. Je veux pas tout mélanger, c'est tout. Mais je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir.
Essaie d'y réfléchir vite. Moi, je commence à étouffer dans cette chambre.
Ben, rien ne t'empêche d'aller te promener.
Seule ? Chaque fois que je t'ai proposé de sortir, tu as rendez-vous avec Monsieur Doan. Ou tu es fatigué. Ou tu broies du noir parce que tes recherches n'avancent pas.
Ce matin encore...
Ce matin ? Parlons-en. Nous sommes allés chez l'épicier du coin de la rue pour acheter de l'eau et du thé. Quand irons-nous voir la baie d'Along ? Tu m'avais promis.
Bientôt, bientôt, d'ici la fin de la semaine. Mais finissons d'abord avec ces documents, tu comprends ? C'est une porte qui s'ouvre pour moi, là. Je pense que mon père ne les a pas eus entre les mains lors de son voyage ici. J'ai enfin des pistes pour tenter de remonter mon histoire.
Je te comprends. Seulement, quand je vois toutes ces fiches, tous ces enfants qui ont vécu le même drame que ton père, tout ce temps qui a passé depuis, je crains que tes recherches, dans lesquelles tu mets une énergie folle, n'aboutissent à rien. Et je crains qu'alors tu ne bascules devant les déceptions dans...
Dans quoi ?
Dans une sorte de désespoir.
Hanoï, 6 avril 2014, quelques heures plus tard.
Alors, ce rendez-vous avec Monsieur Doan ?
Rien de concluant, nous avons parlé avec quelques personnes du vieux quartier, munies des renseignements, des fiches comportant le prénom de mon père. Nous avons rencontré des gens, ils savent pas, ils savent plus, ils ont pas envie d'en parler. Certains ont dit cependant que ces noms leur disaient vaguement quelque chose, j'ai pris quelques photos pour te montrer. Bon, et toi le lac ?
Je ne suis pas allée au lac. J'ai moi aussi déambulé dans les rues du vieil Hanoï avec la photo de l'enfant qui te ressemble un peu. Et la photo de ton père lors de sa première communion. J'ai accosté tous les Vietnamiens âgés que je croisais, au hasard de mes rencontres. Bien sûr, ça n'a pas toujours été facile de communiquer. Certains m'ont envoyé promener sans hésitation. Beaucoup ont accepté de regarder les photos, et un vieil homme m'a fait comprendre qu'il avait connu l'enfant qui te ressemble sur l'affiche du pensionnat. On a fini par trouver une jeune fille qui parlait assez bien anglais. Et j'ai pu comprendre ce qu'il voulait me dire. Il habitait dans le quartier de cet enfant. Il m'a expliqué sur le plan d'Hanoï que j'avais emmené où se trouvait cette rue. La mère de cet enfant faisait des ménages dans la caserne voisine. Puis il s'est engagé dans l'armée Viet. Il est parti dans le nord et n'est rentré sur Hanoï qu'après Dien Bien Phu. Mais dans un autre quartier, il n'a jamais revu cette famille.
Cette famille, il y avait un père présent ?
Un homme venait de temps en temps, un militaire français, mais il n'habitait pas avec la mère et l'enfant.
Et tu peux me faire voir l'emplacement là sur le plan, regarde.
Tiens. Oui, c'est là, regarde.
En effet, ouais, c'est pas loin du pensionnat, hein, ni de l'ancienne caserne. C'est une hypothèse très crédible, t'es formidable, Léa. On va y aller ensemble. Que nous aboutissions à quelque chose ou non, tu peux pas savoir l'énergie que tu m'apportes par ta démarche solitaire. Tu t'es très bien débrouillée, hein, seule dans cette ville inconnue.
Je me suis perdue une dizaine de fois. Et j'ai bien souvent manqué de me faire renverser par une mobylette. Mais finalement, je me suis toujours retrouvée. Je suis même tombée par hasard sur le lac, qui, noyé dans le brouillard, était d'une merveille de mélancolie. J'ai franchi le petit pont rouge qui mène à un temple bouddhiste. Puis j'ai repris mon itinéraire dans les rues animées. Comme la pluie recommençait à tomber, je me suis acheté un chapeau pointu. Regarde.
Ça te va très bien. Allez, viens que je prenne une photo. Hanoï, 9 avril 2014.
Bien sûr, ça fait un peu carte postale, mais c'est beau. Tellement beau, cette mer assombrie par d'immenses rochers qui surgissent çà et là du fond de l'eau, comme un improbable décor de film fantastique.
Ouais, tant mieux si ça te fait plaisir d'y aller.
Tu ne trouves pas ça beau ?
Oui, si, sans doute, je ne sais pas, je suis pas un touriste.
Touriste ou pas, on s'en fiche, ce n'est qu'une question d'étiquette. ta recherche, c'est de retrouver tes racines, ta famille, mais aussi de découvrir ce pays qui est un peu le tien désormais. Et tu devrais être fier de me le montrer.
Mais pas comme ça, avec un troupeau de badauds sur un bateau qui regarde rien et photographie tout. Aucun intérêt, aucune émotion.
Certes. Moi aussi, j'aurais préféré être seule avec toi sur une petite jonque dans le silence absolu et un peu effrayant de ces couloirs rocheux. Mais ces gens viennent de partout admirer la baie d'Along. Ça devrait plutôt te satisfaire.
Oui, enfin, Along, c'est aussi le lieu sinistre où les industriels français ont longtemps exploité les Vietnamiens comme des esclaves pour tirer parti des gisements de houille de la baie. Les cris de souffrance, les cadavres jetés à l'eau, les îles perdues où les colons venaient acheter leur main-d'œuvre esclavagisée. On les oublie dans le cliquetis des appareils photos et les commentaires sirupeux diffusés dans les haut-parleurs.
Avance, Pierre, avance. Sors de ce passé douloureux pour voir l'avenir.
Et c'est justement pour sortir de ce passé douloureux, comme tu dis, que je suis venu dans ce pays.
Hein? J'ai l'impression, moi, que tu t'y enfonces plutôt que d'en sortir.
Tu ne me comprends pas.
Ta quête n'aboutira à aucun résultat précis et tu ne l'acceptes pas. Tu t'accroches désespérément à ton espoir. Plutôt que de tenter de retrouver ta grand-mère, au sujet de laquelle nous n'avons aucun renseignement précis, tu pourrais chercher juste à prendre contact avec ce pays qui fait partie de ton histoire.
J'y arriverai au bout de ma quête. Il me faut seulement du temps.
Du temps ? Nous n'en avons pas tant que cela.
Bon, pourquoi ?
Pierre, je m'étais promis de t'en parler à notre retour d'Along. Je voulais juste que tu aies fait cet effort d'aller là-bas pour me faire plaisir.
De quoi tu parles ? Je comprends rien à ton histoire.
Pierre, j'attends un enfant de toi. C'est tout l'effet que ça te fait ?
Ça date de quand ?
D'un peu avant le jour de nos fiançailles ratées, environ 6 semaines. Mais je ne le savais que depuis quelques jours. J'ai acheté un test en pharmacie, ici, à Hanoï, parce que mes règles n'arrivaient toujours pas, une semaine après la date normale.
Bon. Il est donc encore temps de prendre une décision, dans un sens ou dans l'autre.
Tu veux dire ?
Je ne me sens pas capable de devenir père, pas en ce moment, pas encore.
Tu ne veux pas garder cet enfant ? Notre enfant ?
Mais je sais pas, il faut réfléchir, c'est... Là, c'est violent, cette nouvelle, là, pour moi. Bien sûr, j'ai toujours pensé que nous aurions un jour des enfants ensemble, mais pas maintenant. Il faut que je tire le fil de mon passé pour tisser celui de notre avenir.
Tu réalises bien qu'on ne parle pas d'un vague projet d'enfant. Je porte un enfant de toi, Pierre.
Oui, et ça me paralyse. Léa, donne-moi juste un peu de temps. Je ne suis capable ni d'avancer ni de reculer. Je ne sais pas plus ce que je veux, je ne vois plus rien. Là.
Du temps ? Tu crois que c'est facile ? Moi aussi, je me sens paralysée par ta réaction si indifférente, si dure, tellement démunie d'amour. À quoi ressemble-t-elle désormais notre relation ? Certes, je suis venue là pour t'aider, tout simplement. Sans rien attendre de précis de ta part. Mais maintenant, je me pose la question. Que suis-je pour toi ? Y a-t-il une place pour quelqu'un dans ta vie ? À tes côtés ? Y a-t-il même une place pour quelqu'un auprès de toi, dans ta recherche ?
Allez, viens, sortons un peu. Je voudrais aller avec toi dans ce village où un enfant portait le prénom de mon père. C'est pas loin d'Hanoï, à la périphérie, où on prendra un taxi ou un tuk-tuk.
Je n'ai pas envie. Tu as déjà suivi 3 pistes sur Hanoï à partir de ses archives. Pour rien. J'en ai assez de courir après ce rêve de grand-mère. C'est trop tard, pas assez d'éléments. On va aller déranger des gens pour rien. Et tu reviendras encore plus déçu, encore plus blessé. À quoi ça sert ?
Allez, je t'en prie, viens avec moi. On prendra Monsieur Dohan au passage, je te présenterai à lui. On restera pas longtemps, juste histoire d'en avoir le cœur net.
Je t'attends ici. Mais cette piste est la dernière. Après, tu reviens à nous.
Promis, je suis de retour dans 2 ou 3 heures, pas plus. Ensuite, je reste auprès de toi et on parlera.
Pierre, tu sais, j'ai vraiment envie de garder cet enfant. Hanoï, quelques heures plus tard.
Ah, tu aurais dû venir, hein, le dialogue que j'ai avec cette femme-là et d'autres gens âgés du village, c'était vraiment... C'était vraiment émouvant.
Mais cette femme n'est pas ta grand-mère.
Non, non, tout au moins je le pense pas. C'est toujours un peu confus, j'ai la vague impression que c'est tellement lourd pour eux de remonter vers ce passé douloureux qu'il n'est pas évident de tout dire. Je suis pas certain que cette vieille femme était prête à voir surgir dans sa vie, dans son village, un petit-fils venu comme par miracle d'une Europe lointaine. Le petit garçon qu'elle a confié au pensionnat avait une infirmité au pied. Doane me dit que, d'après la description, ce devait être un pied beau ou quelque chose comme ça. Ce qui n'était pas le cas de mon père. Mais elle m'a montré 2 autres photos. Tu t'étais pas trompé, il me ressemblait beaucoup. Elle-même était troublée par cette ressemblance. À un moment de son récit, elle m'a pris dans ses bras en pleurant. Elle a beaucoup souffert lorsqu'elle a réalisé que son fils avait été amené en France et qu'elle ne le reverrait plus jamais, sans doute. Son fils a pris le bateau pour la France en 52. Mais elle l'a pas vu partir, elle n'était pas prévenue. Depuis plus d'un an déjà, on lui avait fait comprendre au pensionnat que ses visites n'étaient pas souhaitables, qu'il fallait qu'elle laisse aux sœurs le soin d'éduquer l'enfant, et que ce serait impossible tant qu'il resterait dans l'attente de sa mère. Quand il est parti, la situation était encore très agitée au Tonkin. Elle s'est dit que l'enfant serait peut-être plus en sécurité en France que dans un pays en guerre. Enfin.
Pierre, je comprends très bien que ce récit t'ait perturbé. Mais dans la pratique, nous en sommes toujours au même point.
Non, nous n'en sommes pas au même point, pas en ce qui me concerne en tout cas. Là, je me confronte à autre chose que des faits historiques évoqués dans des livres. Ces femmes ne sont pas ma grand-mère, mais elles ont vécu le déchirement que ma grand-mère et mon père ont vécu. Elles ont connu cette atmosphère confuse et violente des dernières années de l'Indochine française. C'est aussi ça le fil de mon histoire.
Mais après, cette femme, elle a bien continué à vivre.
Oui, elle a continué à vivre dans son village avec le reste de sa famille. Ses 2 frères, qui travaillaient dans des conditions lamentables pour les plantations d'EVA, de Michelin, se sont engagés dans l'armée Viet. Ils ont été tués dans les montagnes du Tonkin quelques mois avant Dien Bien Phu. Mais ils avaient commencé leur activité résistante en promenant le bibendum de Michelin, devenu symbole de l'exploitation coloniale dans les rues d'Hanoï.
Et elle ?
Elle s'est mariée à un homme du village, elle a eu 5 enfants. Elle nous en a présenté certains.
Donc, elle a surmonté sa souffrance. Elle a reconstruit sa vie, malgré la part d'ombre de cet enfant dont elle n'avait plus de nouvelles. Elle n'a pas oublié. Mais la vie a pris le dessus.
Oui, sans doute, ouais.
Tu peux pas en faire autant ?
Je sais pas. Je t'ai dit qu'il me fallait du temps.
Et pendant ce temps-là que tu me demandes, ton enfant, qui perçoit peut-être à travers moi tous ces désordres affectifs, ne sait pas s'il naîtra avec un père auprès de lui ou sous un statut de père inconnu.
Tu ne tiens plus aucun compte de moi. Depuis que tu te sens enceinte, tu ne tiens plus compte de moi, de ce besoin essentiel pour moi de mener cette recherche.
Comment oses-tu dire ça? Alors que c'est toi qui tournes autour de toi-même, sans même percevoir ma souffrance. Et peut-être sans souffrance. Tu ne vois même plus. Je suis au bord du malaise avec cette chaleur humide qui ne cesse jamais. Je tiens à peine debout.
Tu veux que j'aille chercher un médecin?
J'ai pas besoin d'un médecin, c'est de toi dont j'ai besoin. Seulement de toi.
Allez, viens dans mes bras un peu.
Pourquoi un peu ?
Léa, je vais rester un peu auprès de toi, mais il faut que je sorte à nouveau. Les gens du village nous dirigent vers une famille d'Hanoï qui pourra peut-être nous renseigner. J'ai rendez-vous avec Monsieur Doan tout à l'heure pour m'y rendre avec lui. Tu peux venir avec nous ? Je sais que je t'avais promis de rester auprès de toi, mais je pouvais pas refuser, tu comprends ?
Non.
Viens, ce sera la dernière visite, je m'y engage.
Tu es incapable de tenir un engagement. Ne me touche pas.
Bon, écoute, la famille que je dois rencontrer habite un quartier de la ville où résidaient dans les années 50 à la fois des familles indochinoises et des familles de fonctionnaires français. Il y avait même quelques couples mixtes, dont un certain nombre d'enfants métis. J'ai vraiment espoir...
Vas-y.
Tu veux pas venir avec moi ?
Non.
Allez, viens, j'ai parlé de toi, monsieur Doane, il voudrait te connaître.
Je t'ai dit que non. Mais vas-y donc, qu'est-ce que tu attends ? Hanoï, quelques heures plus tard.
Elle est partie. Elle n'est pas là. Oh, mais quel con. Oh, mais quel con. Oh, j'aurais dû m'en douter. C'est toutes ces affaires, là. Elle a laissé un mot. Elle a laissé un mot. Je te laisse avec tous tes petits garçons. Ah, c'est les photos qui sont autour. Ils ont grandi. Depuis, tu ferais bien d'en faire autant. Je retourne en France. Tu ne m'as pas vraiment laissé t'accompagner dans ton voyage intérieur. Peut-être ne peux-tu remonter ton histoire qu'en solitaire. Peut-être n'ai-je pas su t'attendre avec patience. C'est que je suis, moi, entré dans un autre voyage. Je pars avec cet enfant qui est nôtre. Je ne sais pas encore si je vais ou non le garder. Je prendrai la décision seule. Les 10 heures d'avion me permettront de réfléchir. Léa.
Hanoï, quelques heures plus tard.
Lettre à mon père. J'ai voulu suivre les traces de notre famille, comme tu avais tenté toi-même de le faire peu avant ma naissance. Je me devais de le faire, pour toi, pour moi. Démarche insensée, sans doute que de t'écrire le bilan de ce temps passé à Hanoï, à toi qui es parti définitivement, et qui ne pourra lire cette lettre. Je suis certain cependant que le message passera par les ondes qui nous relient, qu'il montera vers ton âme, cette évanescence de toi qui vogue quelque part dans l'univers. J'ai pas retrouvé ma grand-mère, pas plus que tu n'avais retrouvé ta mère quelques 25 ans plus tôt. Trop peu d'informations, trop partielles, trop confuses. L'État français a vraiment tout organisé pour rendre nos racines illisibles. Il fallait faire de ces petits métis des Français pur sang, qui ne pourraient en aucun cas songer à s'opposer à l'empire colonial d'Indochine. Quitte à les arracher à leur mère, quitte à leur donner un nouveau nom, effaçant toute trace de leurs origines viettes. C'est cela qui demeure ma plus grande révolte. On nous a volé notre identité, rendant notre histoire invisible. Je pense que ce fut là aussi ta blessure la plus profonde. La blessure que tu as traînée toute ta vie, étouffée dans tes silences. Le silence renvoie au néant cette part de vide béant que tu portais en toi comme un fardeau. Même si tu ne m'as rien dit de tout cela, je t'ai suivi au bord de ce précipice et n'ai échappé au vertige que parce que tu me tenais la main. Mes recherches à Hanoï n'ont pas cependant été infructueuses. J'ai aimé ce pays constamment noyé dans ses rivages, ses rivières et les miroirs trempés de ses rizières. Comme j'aurais aimé en parler avec toi. Comme j'aurais aimé parcourir avec toi les ruelles de la vieille ville dans ce brouillard doucement tiède et humide qui enveloppe tout. En ton absence, mon vieil ami Doan, parlant avec autant d'aisance le français que le vietnamien, m'accompagnait et me servait d'interprète. J'ai pu avec lui déambuler dans les couloirs de l'orphelinat qui te servit à la fois de foyer, d'école et de prison. J'ai surtout pu connaître des femmes qui avaient vécu le même déchirement, la même tristesse que ta mère, qui avaient vécu, comme elle, la colonisation, la guerre et l'immense espoir de renaître dans un pays libéré de son joug. Parmi ces histoires qui font maintenant partie de l'histoire, mais aussi de notre histoire, celle d'un peuple soumis par un autre peuple, celle de la violence des combats armés, j'ai pu aussi connaître quelques belles romances d'amour, rares sans doute, mais parfois une tonkinoise, un français, au-delà des questions de race et des hiérarchies absurdes, qui se sont aimés quelques semaines, quelques mois, quelques années. Je m'accroche à l'espoir que mon grand-père ne fût pas un de ces soldats usant de ses privilèges de colonisateur et de guerrier pour abuser d'une femme indigène, mais un homme mu par un élan d'amour partagé. Être un enfant de l'amour, même dans le contexte violent et malsain d'un conflit armé pour maintenir la colonisation, n'a pas le même sens qu'être l'enfant d'un viol de guerre, viol du colonisateur sur la colonisée, pour le simple plaisir de l'un et la souffrance passive de l'autre. Je vais repartir vers la France demain, rejoindre la femme que j'aime. J'espère revenir à temps pour qu'elle garde notre enfant. Je ne sais pas si j'ai acquis assez de maturité et de recul par rapport à mon histoire pour aborder sereinement la paternité. Je pense que mon parcours au Vietnam aura apporté une nécessaire lumière sur certaines zones d'ombre que je portais en moi. Il m'aura aussi sans doute permis d'avancer dans le deuil de toi, si difficile, si douloureux. Le départ brusque de Léa a été l'élément déclencheur pour me faire prendre conscience de mon désir de construire ma vie avec elle et d'être père de l'enfant qu'elle porte. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je pars avec dans la tête les images et les sonorités de ce pays tonkin. Le vert irisé des rizières trempées. Les rochers sombres émergeant de la baie d'Along. Le fourmillement constant des ruelles du vieil Hanoï. Les anciennes maisons coloniales encrassées par les vapeurs noires des innombrables mobilettes. Le charmant désordre des chapeaux pointus. Des vélos et des charrettes lourdement chargées. Et surtout les voix qui s'interpellent, qui racontent, dans cette langue que je ne comprends toujours pas, mais dont j'ai intégré la musique à la fois mélodieuse et un peu rauque. Je pars surtout avec, profondément ancré en moi, le regard de cette première vieille femme que le hasard m'a fait croiser, la certitude qui m'avait envahi de l'avoir reconnue, et l'étrange tendresse de ses yeux vers moi, comme le signe indicible de son acquiescement.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Ce texte a été écrit par Christine Wistup, destiné au théâtre. Il a été présenté en juillet 2015 à Avignon, au théâtre du Vieux Balancier.
Et merci Annie pour ta participation à cette lecture. Voilà, c'est l'émission Lui a approuvé qui se termine. Voilà, on est pour l'instant, on tient une émission une semaine sur deux seulement. C'est plus toutes les semaines, vous l'avez peut-être remarqué. Et puis, donc, on se retrouve tous les 15 jours. La prochaine émission, ce sera début janvier. Là, c'est les fêtes de Noël. Alors, pour nous retrouver, eh bien, vous pouvez réécouter toutes les émissions en podcast sur le blog de Lui a approuvé. Lui et approuvé, tout attaché, sans accent. noblogs.org et si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire bien sûr par mail, lui est approuvé tout attaché sans accent @guyade.org guyade gwiad.org. Si vous souhaitez nous écrire, pour nous contacter, si vous voulez, vous pouvez nous proposer donc des lectures, vous pouvez venir lire avec nous aussi si vous le voulez, il n'y a pas de souci, on est complètement ouvert. Et donc, où j'en étais, je ne sais plus. Oui, vous pouvez aussi nous envoyer des courriers au 40 rue Alfred Duméril. Donc vous précisez, émission Lui approuvé, Radio Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Et puis voilà, c'est tout. Je crois que j'ai donné tous les contacts. Et donc, plus qu'à se dire une bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine, dans 2-3 semaines, j'allais dire à la semaine prochaine.
Prochain.
À l'année prochaine, du coup, même. Bonne soirée.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.